Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM.
J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais.
C'est bon parce qu'on est des gueux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Delta Sport. Alors oui, on n'est pas vendredi, on est mardi 12 mai 2026. Mais comme vous le savez, on enchaîne les jours fériés, donc ça fait déjà deux vendredis qu'on n'a pas fait d'émission. C'est pour ça qu'en ce mardi, on se retrouve pour faire une nouvelle émission. Ça faisait longtemps, on se retrouve tous, ouais. Donc aujourd'hui, il y a toute l'équipe, je suis avec Mamadou, salut Mamadou.
Salut, le retour.
Tu vas bien?
C'est ça, ça va très bien.
C'est vrai que t'as fait longtemps que t'es pas là.
C'est ça.
Vous avez un peu manqué. On va dire ça. Ensuite, on est avec Ancelin. Salut Ancelin.
Salut.
Tu vas bien?
Nickel.
Ça parfait, bah tant mieux alors. Ensuite, je suis avec Clément. Salut Clément. Ça va aussi, Clément? Parfait, nickel. Et avec Sacha.
Ça va, Sacha. Ça va.
Tu vas bien? Donc, tout le monde va bien. Il y a une grosse émission aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer par le cyclisme, comme d'habitude, avec Clément qui va nous présenter, enfin qui va revenir sur le Tour de Turquie, le Tour de Normandie et le début du Giro. Et oui, il y a déjà 4 ou 5 étapes qui sont passées.
3.
Puis c'est parti de Hongrie, je crois.
Bulgarie.
Ouais, c'est Bulgarie, c'est ça, exactement. Donc Clément nous parlera de tout ça. Ensuite, Ancelin, il va nous revenir sur le Tour de Bretagne, la Vuelta Femme et Liège-Bastogne-Liège. Il y a des trucs à dire, Liège-Bastogne-Liège, il s'en est passé. Ouais. Ensuite, Sacha va revenir sur la Formule 1 et le Grand Prix de Miami. Là aussi, il s'en est passé des choses, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de Formule 1.
C'est vrai.
Moi, je vais revenir après sur la Ligue 1 et les trophées NFP, un petit mot quand même. Je vais revenir aussi sur les autres championnats en Europe, etc. Mamadou, lui, va revenir sur les derniers matchs et classements en Liga, puis sur la Ligue des Champions. Parce que, c'est un gros programme aujourd'hui, il y a des trucs à dire. Restez bien avec nous, prenez un truc à grignoter, etc. Et tout de suite, on commence avec le cyclisme, avec Clément.
Donc je vais commencer par le Tour des Alpes, donc il s'est fini le 24 avril et c'est l'Italien Giulio Pellizzari qui emporte la dernière étape ainsi que le classement général. Ensuite, malheureusement, durant cette période où on n'a pas fait d'émission, il y a deux coureurs qui sont morts. Un premier, un Colombien, Cristian Camilo, donc c'était le 24 avril. Il faisait partie de l'équipe UAE et il a chuté lourdement dans le Tour du Jura. Donc, en hommage, il y a Pogacar qui a porté un brassard noir pour la prochaine étape du Tour de Normandie. Et le 26 avril, il y a un Belge, Milan Bral, qui est décédé à 21 ans pendant un accident à l'entraînement.
Ouais. Je n'étais pas du tout au courant. Ah oui, c'est chaud.
On voit que le cyclisme, c'est quand même un sport, mais c'est quand même dangereux. Hein. Déjà à l'entraînement, c'est-à-dire qu'avec les voitures en circulation et puis même en course... Là, triste.
Bah, quand ils descendent des pentes à 70 km/h,
ça va très vite.
Ça va très vite.
Donc ensuite, je vais revenir sur le Tour de Turquie. Il s'est déroulé du 26 avril au 3 mai. Donc pour l'étape 1, c'est le Belge Tom Krab qui remporte cette étape au sprint, ainsi que l'étape 2 aussi, il l'a remporté. Pour l'étape 3, donc c'est Ivan Sosa qui remporte l'étape avec 9 secondes d'avance. Pour l'étape 4, c'est Stanislav Anioskowski qui l'emporte au sprint.
Oh, c'est pas facile à prononcer ça.
Ah non. Pour l'étape 5, donc, c'est Casper Van Hunden qui l'emporte. L'étape 6, c'est Christian Bagatin avec plus d'une minute d'avance.
Ah oui.
Et pour l'étape 7, c'est David Bellerani qui l'emporte. Et enfin, Tom Krab revient en force et remporte la 8e étape.
Donc,
ensuite, pour le Tour de Normandie, qui s'est déroulé du 28 avril au 3 mai, Dorian Godon remporte le prologue, donc c'était un contre-la-montre, et il l'a remporté en 3 minutes et 35 secondes, avec 6 secondes d'avance par rapport au deuxième et au troisième. L'étape 1, c'est Tadej Pogacar qui l'a remporté, comme l'étape 2. Pour l'étape 3, c'est Dorian Godon qui l'emporte. Et l'étape 4 et 5, c'est encore Pogacar qui les gagne, avec quelques secondes d'avance par rapport à Florian Lipovic.
Surprise ? Bon, je pense pas.
Du coup, forcément, il remporte le classement général avec 4 étapes de gagner sur 5.
C'est sûr que ça fait vite l'affaire. Ouais.
Et enfin, du coup, je vais revenir sur le Giro d'Italie. Donc, il se compose de 21 étapes. Donc il est parti de Bulgarie pour faire une arrivée à Rome. Donc le 28 avril, la première étape est remportée par Paul Magnier et devance Tobias Lund Andersson. Il prend donc le maillot rose après un sprint chaotique où seulement une dizaine de coureurs se sont joués la gagne avec une chute à 600 mètres de l'arrivée. C'est dommage quand même pour les coureurs à 600 mètres.
Tu vas à 600 mètres, t'arrives. En plus, c'était pour le sprint final. C'était ça pour la gagne. Du coup, ça a fait des dégâts. Genre, tous les premiers sont tombés ou non, ça a juste fait,
Les premiers, ils sont pas tombés, mais après, tout le reste du peloton.
Parce qu'en plus, t'as un sprint massif à la toute fin. Oh là là.
Ah ouais.
Ça, à 600 mètres, ça va faire
des
dégâts.
C'est déjà de la vitesse.
Ah ouais, en plus, ça, un sprint à 600 mètres. En plus, quand il y a les équipes qui se forment et tout, en avant du peloton et tout, ça frotte.
Et donc, pour l'étape 2, c'est Thomas Silva qui a été parfaitement lancé par Christian Scaroni. Donc, il devient le premier Uruguay à s'imposer en World Tour et sur le Giro. Donc, c'était vraiment une victoire inattendue pour Thomas. Et Vingegaard et Pellizzari, ils ont tenté de gagner le final, mais ils ont été rattrapés dans le dernier kilomètre. Et du coup, Silva remporte le maillot rose. Pour l'étape 3, c'est Adam Yates, il a abandonné. Donc c'est dommage.
Parce qu'avant le Tour de France, on sait si c'est grave ou pas ou...
Je sais pas.
Ouais. Parce qu'avant le Tour de France, j'imagine peut-être qu'il aurait participé au Tour de France, donc c'est pour ça.
Et du coup, le jeune français Paul Magnier s'adjuge la troisième étape du Giro devant Jonathan Milan et Dylan Groenewegen. Il reprend le maillot rose et un deuxième succès en trois jours.
Super. Et Paul Magnier, c'est un Français.
C'est un Français.
Du coup, c'est un Français quand même maillot rose actuellement sur...
Sur le Giro.
Et du coup, là, actuellement, j'imagine que ça doit être la quatrième étape actuellement qui est en train de se
aujourd'hui,
dérouler.
Ouais.
Super. Bon, ouais, super. Bah, merci Clément, tu peux enchaîner si tu veux en cela, enfin, si tu avais d'autres trucs à dire.
C'est bon.
C'est le Tour de Bretagne, donc il était de cette étape. Donc la première étape, c'est Alessio Magnaniotti, donc il s'impose et endosse le premier maillot de leader. La deuxième étape, c'est Alvar Dolven. La troisième étape, c'est à nouveau Alessio Magnaniotti. Étape 4, c'est Barroso, qui signe une très belle victoire. Étape 5, c'est Aubin Asparfait, qui s'impose et prend la tête du général. Étape 6, c'est Kylian Tréhaut, qui règle le sprint, mais Asparfait conserve son maillot. Et enfin, la septième étape, c'est Pierre Choblet, qui signe la dernière étape à Dinan. Mais c'est bien Aubin Asparfait qui remporte le classement général final.
Et c'est quelle nationalité? Ça, c'est pas du tout en français Non, pas du tout.
Donc, il y avait également donc, la Vuelta Femme, donc, le premier tour femme de l'année. Donc, la première étape, c'est Noémie Rueg qui s'impose et Francisca Cor prend le maillot rouge donc, de leader. La deuxième étape, c'est Shari Boussiou qui triomphe et Francisca Cor garde le maillot rouge. Troisième étape, c'est Cédrine Kerbol qui est récidive, confirmant sa forme et Francisca Cor garde à nouveau le maillot rouge. Étape 4, c'est Lotte Kopecky qui s'impose au sprint et prend la tête du général. Cinquième étape, c'est Misha Bredewold qui l'emporte à Astorgan et Lotte Kopecky garde le maillot de leader. Sixième étape, Anna van der Breggen domine l'ascension des Prares, un vrai régal pour les amateurs de grimpe et prend la tête du général. Et enfin, la dernière étape, c'est Petra Sistiani qui s'impose en solitaire sur l'Angliru.
Et là, il y a combien d'étapes à la Vuelta Femme?
7.
7, et du coup, là, c'est fini.
Là, c'est fini. Ouais.
Il me semblait, le Tour de France Femme, il y en a un peu plus quand même, c'était pas 10.
C'est... Ouais, 9-10.
Comme ça, ouais. Et mais en fait, si je me trompe pas, chez les hommes, c'est d'abord Giro, après Tour de France et Vuelta. Ouais. Là, c'est quoi? C'est Vuelta, Giro, Tour de France? C'est comment? Parce que ouais, du coup, la Vuelta. Ouais. C'est Vuelta, Giro, Tour de France. Super, ça marche.
Donc, c'est Paula Blasi qui remporte le classement général final.
Super, je connaissais même pas. Ça me dit rien du tout.
Donc il y avait Liège-Bastogne-Liège aussi. Donc chez les femmes, c'est la néerlandaise Demi Vollering qui a encore frappé, qui a dominé les Ardennes. Donc c'était une victoire en solitaire à Liège devant Puck Pieters et Katarzyna Niewiadoma. Donc c'est une troisième victoire sur la doyenne pour la championne. Donc c'était vraiment un printemps exceptionnel pour la FDJ United Suez, qui a gagné quand même beaucoup de courses, avec Paris-Roubaix, le Tour des Flandres.
Là, ils sont bien. Là.
Donc c'est l'équipe qui a la 14 victoires actuellement. Donc c'est l'équipe la plus haute pour le moment au classement UCI. Et chez les hommes, donc c'est Tadej Pogačar qui a encore frappé. Donc c'est le vainqueur de la doyenne pour la quatrième fois devant un Paul Sexas impressionnant. Deuxième à seulement 19 ans, le Français a tenu tête au Slovène jusqu'à la Roche au Foucan avant de craquer à 14 km de l'arrivée. Et Remco Evenepoel complète le podium. Donc une performance qui a marqué les esprits. Donc c'est que ça a encore confirmé son statut de prodige après sa victoire à la Flèche Wallonne et son tour de Pays Basque remporté. Et il l'a annoncé, il participera bien au Tour de France 2026.
Pour le gagner.
Ouais. Ouais, normalement pour le gagner. Si.
Ouais, je sais pas. Pensez-vous, c'est trop tôt,
ah, pour moi, je pense que c'est très dur. Mais après, déjà, s'il fait pour moi top 5, ce serait déjà beau. Ouais. Mais déjà, top 5, pour moi, c'est dur. Pour moi, je pense qu'il peut faire top 10.
Ouais.
Top
après, ça va toujours lui apprendre. Ouais.
Oui, de toute façon, voilà, il est jeune, il a quel âge, 19 ans.
Il a rien à perdre.
19 ans, c'est jeune. Pour Richard, il a combien déjà, 23, 24 J'ai quand même commencé à faire vieux.
Je crois qu'il a 24, ouais.
Ouais, il commence à faire vieux peut-être un peu. Enfin, il commence à faire vieux, ça va, mais c'est vrai qu'il a fait encore longtemps. Mais après, je sais pas, ouais. Je pense qu'on ne parle pas assez aussi de Vingegaard. Mais après, c'est vrai que sur les dernières années, déjà, Vingegaard se faisait quand même déjà concurrencer par Pogacar. Mais.
L'année dernière, il a eu une grosse chute aussi, je crois.
Ouais, Vingegaard, je crois, donc, il me semble.
Oui, c'est vrai, oui.
Ça l'a bien ralenti.
Mais je m'en souviens aussi, le Tour de France, l'année dernière, enfin, j'ai vu des coureurs, je connaissais pas Lipovitz, par exemple. Ouais. Lipovitz ou même un autre, je sais plus son nom. Qui a fini quatrième, peut-être, je sais plus. Mais enfin, vraiment, c'était là, je pense, ça va être intéressant. Alors, je pense peut-être, c'était sur les Chemins de Liège, il l'a suivi, mais après, à la fin, c'était trop
après,
compliqué.
Il peut aussi jouer d'autres maillots distinctifs.
Ou voilà, par exemple, le maillot de la Apoa pour
le meilleur grimpeur.
Meilleur grimpeur, ça. Donc, bah, super. Bah, non, mais merci, Anselin. Tout de suite, on passe à la Formule 1 avec Sacha.
Aujourd'hui, on va parler du GP, du Grand Prix de Miami. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Formule 1 parce que deux Grands Prix ont été annulés en raison de la guerre en Iran, etc.
Ouais, c'était Arabie Saoudite et Bahreïn.
C'est ça.
Arabie Saoudite et. C'est Bahreïn, c'est ça aussi.
Ouais, parce que. Ouais,
et donc, ça a eu lieu le week-end du 3 mai. La course, c'est 53 tours, un peu moins que d'habitude. Donc, pour le résumé du Grand Prix, tout de suite, là, en qualification. On a eu Antonelli, comme d'habitude, qui domine les qualifications. Mais quand même, on peut noter que Max Verstappen, il revient petit à petit. On se souvient qu'en début de saison, c'était pas ça, même la voiture et tout, c'était dur. Et là, il revient. Et il a fini cinquième, je crois, aux qualifications, si je ne me trompe pas. Ensuite, pour la course, au sixième tour, on a eu malheureusement Isaac Hadjar, qui a envoyé complètement sa voiture dans le mur.
Ouais. C'est une grosse erreur de sa part quand même. Ouais. Enfin, vraiment, c'est lui
il
qui
a touché,
il va bien.
Ouais, il a touché le point de corde et ça a frôlé tout le mur et du coup
sa vitesse, sa direction.
Ouais, toute la direction elle est foutue et il a pas pu terminer.
Après, lui, il a reconnu, hein, c'était sa faute. C'est vrai qu'il a attaqué comme un fou alors qu'il restait au 7e tour, alors qu'il y avait encore 53 tours. Il l'a dit, c'est de sa faute. Ouais. Mais c'est vrai qu'attention parce qu'au début, début des courses, on voyait Hadjar, il est même un peu devant Verstappen. Là, attention parce que Verstappen il repasse un peu peut-être devant Hadjar.
Enfin, faire attention à Hadjar. Tout le monde pensait que Isaac Hadjar, ça allait être le futur Max Verstappen, un très bon pilote. Et là, cette saison, pourtant, c'est saison blanche pour l'instant.
Ouais.
Et en même temps. Pendant le même tour, il y a aussi Gasly. Je ne sais pas si vous avez vu.
Il
est parti en tonneau, en fait, sur une bataille contre Lindblad.
Ouais, Lindblad, c'est voilà.
Il a bloqué ses roues. Et en fait, en voulant tourner, il tournait au max, Lindblad. Et du coup, il est rentré dans Gasly. Il est parti en tonneau. Heureusement, rien de cassé, aucune blessure, etc.
C'est vrai que, aller en tonneau, ça doit être assez impressionnant, quand même, je pense.
Que souvent, je vois des vidéos où. Quand t'es dans les tribunes, ça fait encore plus peur parce que il y a des grillages et tout, mais il y a quand même les projectiles, etc. Surtout que c'est du carbone, donc ça casse,
ça casse
net.
Ouais.
Ensuite, on a Bottas qui a dans la ligne des stands, il est passé trop vite, donc il y a une investigation et il s'est pris une pénalité pour ça. Il est passé trop vite dans la voie des stands et ça peut être dangereux. On le sait, il y a plein d'ingénieurs, tous les mécaniciens qui changent les roues, donc il y a pas mal de monde.
En plus, c'est comme s'il fallait besoin de ça, pardon, déjà Bottas qui est dernier, je pense, l'année dernière avec sa voiture. Donc,
il a mal fini quand même.
Ouais, ça, mais de toute façon, c'est quoi déjà sa voiture? C'est Cadillac.
Ouais.
Cadillac, on voit bien que début de saison, c'est pas fou. Alors, en plus, il prend une pénalité. C'est pas ça qui va arranger.
Sur ce Grand Prix de Miami, on s'est un peu ennuyé parce que au début, il y a eu plein d'attaques, etc. Au milieu, rien du tout.
Rien du tout.
On s'ennuie, les arrêts au stand, les pit stops et tout, ils n'ont pas du tout été en même temps, donc très répartis, donc on s'est ennuyé. Alors que dans le dernier tour, il s'en est passé les choses, des attaques. Norris, Piastri, McLaren, donc qui a pas mal attaqué sur. Sur les Ferrari de Leclerc et sur la Mercedes de Antonelli, toujours, qui fait une belle saison cette année. Et donc Leclerc qui a fait un 360, il s'est loupé et il a complètement tourné et ça a fait plein de fumée, etc. Il a réussi à repartir, mais il a quand même perdu 3 places. Il était sur le podium, 3e normalement, et il a fini 6e. À la fin de ce dernier tour, donc comme quoi en un tour ça peut changer pas mal. Donc pour le classement, on a Antonelli premier, ensuite Norris, puis Piastri, on a Leclerc, Russell et Verstappen. Et pour une fois, Hamilton n'est pas, il a fini un peu plus bas, 7e, il me semble, quelque chose comme ça. Et pour le classement constructeur, du coup, on a Mercedes toujours qui domine, puis même. Ferrari et McLaren. On a quand même Alpine qui est 5e, c'est plutôt pas mal.
Mais après, je vais dire, après, c'est vrai que je crois, c'était pour les qualifs sprint, je sais plus, mais on a vu que je crois que c'était les deux McLaren qui étaient devant les deux Mercedes, il me semble.
Oui,
je sais plus ça.
Les qualifs sprint, ça s'est bien placé pour McLaren, mais c'est ça. Ouais, pour Mercedes.
Après, ouais, c'est ça, c'est parce que après, apparemment, c'est qu'ils vont apporter leurs évolutions Mercedes après au Grand Prix prochain qui est au Canada. Ouais. Sauf que là, du coup, genre toutes les teams, genre McLaren, Red Bull et tout, ils ont apporté leur évolution ce week-end. Donc évidemment, c'est sûr que ils se sont rapprochés Mercedes. Bon, même McLaren, ils ont peut-être un peu dépassé par exemple sur les qualifs sprint. Mais après, pour le prochain Grand Prix, vu que Mercedes va ramener des évolutions, je pense que ça va être encore comme au début de saison.
Là, on voit bien que les intervalles se resserrent entre les temps, parce que dans les premiers Grands Prix, on avait Grand Prix de Chine où Antonelli il avait fait presque 20 secondes d'écart, un truc comme ça. Et là, il y a même pas une seconde entre les premiers et le deuxième, donc ça change beaucoup. Et ce week-end aussi, il n'y a pas eu de F1, mais il y a eu les MotoGP.
Les MotoGP, ouais.
Au Mans, et j'ai des amis qui y sont allés, apparemment c'était impressionnant. Ouais, pareil, franchement bien, on m'a dit.
Ouais, après, c'est vrai que moi aussi je connaissais quelqu'un qui y est allé. C'est vrai que je pense que l'ambiance, en fait, il y a le circuit, mais genre aux alentours, il doit y avoir des animations et tout, c'est vraiment super.
Bah, moi, quand j'étais allé voir le GP Explorer, il y avait plein d'animations. Le circuit, on dirait pas comme ça, mais il est immense autour. Ouais. Et du coup, il y a plein d'animations, et puis il y a le camping aussi.
Ah, t'es allé voir le GP Explorer genre l'année dernière?
Ouais, le dernier. GP3 là.
Et ouais. On en avait parlé, je crois.
Je crois qu'on en avait parlé. Et ouais. Et puis il y a le camping aussi, je crois. C'est le camping à côté. Où c'était pas l'année dernière où il y avait eu plein de problèmes et tout.
Ah, ça me dit rien.
C'est-à-dire des problèmes.
Il y avait eu du feu et tout. Enfin, c'était.
Ah ouais.
Sur le MotoGP ou pas. Mais il y a eu. Et là, cette année, les gens ils se sont réveillés à coup de moteur, c'est des 1000 cm3 qu'ils mettent à côté des tentes, enfin c'est souvent n'importe quoi. Mais apparemment c'est pas mal le MotoGP.
Ouais, bon, franchement en plus c'était un beau Grand Prix. En plus Quartararo, je crois, il a fini pas mal, apparemment, ouais. Il me semble.
C'est en premier, c'est Jorge Martin qui a gagné. Quand même, Juan Zarco, en ce moment ils en parlent beaucoup en MotoGP, et qui a fini 11e quand même.
C'est pas fou, mais après apparemment c'est que ils attendaient la pluie, il y a pas eu de pluie. Je pensais que de la pluie il serait remonté un peu Juan Zarco, mais
peut-être
parce qu'il est meilleur sous pluie. Bon, super, pas Murphy, merci pendant Sacha. Tout de suite on passe à la Ligue 1. Ah, le petit jingle Ligue 1, la Ligue 1. Et oui, parce que il reste qu'une journée, qu'un week-end de Ligue 1. Alors, je vais pas vous mentir, en tant que Marseillais, ça me fait un peu plaisir que la saison se termine, parce que ça a été la pire saison de l'histoire. Bon, je le dis vraiment, clairement. Même mon père et tout, vraiment, qui a regardé du Marseille depuis très longtemps.
Ah oui,
en fait, on a connu des saisons, tu vois, mais où ça s'est mal passé. Mais en termes de rapport effectif, résultat, quand tu vois l'effectif que tu as au début de saison, quand même, t'as un effectif, t'as Medina,
en début d'année, ça...
Pechao, t'as du Aubameyang, t'as du Højbjerg, t'as du Pavard même après qui arrive, t'as du Rulli dans les buts qui est bon. En fait, t'as un effectif pour vraiment déjà aller loin avec des champions, déjà pour passer les barrages. Parce qu'on va faire le récap quand même de la saison de Marseille. Pour moi, t'as la possibilité d'aller en barrage de LDC, vraiment, c'est sûr. En Ligue 1, tu dois finir minimum dans le top 3. Sur le podium, il n'y a pas débat. Coupe de France, tu dois aller loin. Et surtout, trophée des champions, tu dois le gagner, le trophée des champions. Et voilà, je vous vois tous vous marrer. Et oui, parce que c'est dur cette saison, voilà.
Mais la communication aussi qui n'a pas été un franc succès.
Non, mais il n'y a rien qui est allé. Le logo qui est horrible, le logo. Il n'y a rien qui va cette année.
Et ma Problox, etc.
Non, ouais, Marseille qui a fait une collaboration avec Roblox. Il n'y a rien qui va de façon cette année. Donc, ça a été le moment de changer de saison. Heureusement qu'elle est terminée. Mais bon, ça fait quand même un petit point de nostalgie, parce que cet été, il n'y aura pas de Ligue 1. Ça va nous manquer un peu. Enfin, la petite pause quand même. Moi, ça manque un peu le foot quand il n'y a pas de.
Il y aura la Coupe du Monde quand même.
Il y aura la Coupe du Monde, c'est sûr. Mais tu vois, le championnat de France.
pense pas.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais c'est sûr qu'il va vite arriver avec la Coupe du Monde. Bon, du coup, on va revenir sur les deux dernières journées de Ligue 1 qui se sont déroulées. Donc, pour commencer, on avait un Nantes-Marseille. Je pense que ça, c'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Vraiment, faut.
Mais dis pas que Marseille a perdu contre Nantes.
3-0 pour Nantes contre Marseille, tu savais même pas.
Parce que j'ai vu Nantes descendre en Ligue 2,
Nantes,
donc ça m'étonne beaucoup. Hein.
Mais okay. Nantes a gagné 3-0 contre Marseille, c'est tout simplement une honte. Là, c'est vraiment la gourde qui a fait la goutte de trop, pardon. Vraiment, faut en parler. Il y a même après à la commanderie, il y a eu une mise au vert qui s'est passée. Ouais. Les joueurs ont dû dormir au centre d'entraînement, empêchés de voir leur famille.
En
tout,
punition,
parce que,
quoi.
Punition, exactement. Sauf que ça s'est mal déroulé cette semaine encore. Enfin, cette semaine, du coup, c'est mal déroulé après match du coup de Nantes, puisqu'ils ont fait entre guillemets après une fête un peu improvisée. Aubameyang, l'attaquant de Marseille, qui a vidé un extincteur sur un dirigeant. Il y a rien qui va. Ils ont retourné les lits. Enfin, ouais.
Je t'ai rappelé quand même. Aubameyang, il a quel âge? 35 ans, 36 ans.
Ah ouais, 36.
Il est venu à Marseille. Il a pris les jeunes. Il a dit allez, on fait la fête dans l'hôtel.
Apparemment, il s'est excusé et tout. Il voulait faire un communiqué. Apparemment, il n'a pas fait le communiqué pour pas rajouter déjà de l'huile sur le feu, parce que bon, déjà il est déjà assez chaud le feu à Marseille. Même quand tout va bien, le feu est toujours là. Donc non, franchement, Marseille, il n'y a rien qui va. Bref, du coup, Marseille qui perd 3-0 à Nantes. Et là, c'est vraiment une grosse déception. C'est là, après ce match, on se dit, c'est adieu à la Ligue des Champions, vraiment. C'était pas officiel. On va le voir après, mais après ce week-end, du coup, c'est sûr et certain, Marseille n'ira pas avec des champions l'année prochaine. Ensuite, on avait deux partout entre Paris et Lorient. Petit match nul. Après, le PSG, qui on va voir, sera quand même champion. Puisque Lens n'en a pas en profité. Si Lens, en cas de victoire, ils auraient pu revenir sur le PSG, mais non. Oui. Ils ont fait un partout contre Nice, donc dommage. Après, ils avaient pris un rouge, les Lensois. Victoire de Monaco 2-1 contre Metz. Metz, on verra après au classement, mais qui est en Ligue 2. Le Havre, Lille, un partout. Toulouse-Strasbourg, victoire de Toulouse, 2-1. Strasbourg qui, en plus, devait se mettre en confiance avant son match de Ligue Europa Conférence. Ligue Europa Conférence, on y reviendra la semaine prochaine.
Et oui.
Mais Auxerre-Angers, ensuite, victoire de Auxerre 3-1, qui prend des points précieux pour la course au maintien. PFC Brest, victoire du Paris FC 4-0, rien à dire. Pour finir, victoire de Lyon 4-2. Donc ce week-end, c'était l'avant-dernière journée de Ligue 1. Et c'est pareil dans tous les grands championnats européens. Mais les deux dernières journées de championnat, c'est les matchs se jouent tous en même temps. Donc là, ce week-end, les matchs sont joués en même temps. Et pareil, là, du coup, le week-end qui va arriver, c'est les matchs vont tous se jouer en même temps là aussi. Donc c'était dimanche à 21h, c'est ça que les matchs se sont joués. Donc on a eu Lens-Nantes, victoire 1-0 de Lens. Victoire de Rennes face au PFC 2-1. On a eu une victoire de Auxerre très très importante contre Nice. C'est pour l'instant, c'est vrai qu'en cas de victoire, du coup, vu que Auxerre a gagné, Auxerre, on verra le classement après, mais est passé devant Nice. Du coup, Auxerre n'est plus pour l'instant barragiste. Donc barragiste, c'est joué contre le 3ème de Ligue 2. Donc maintenant Nice est barragiste, mais attention quand même, parce qu'on va pas trop s'avancer, puisque Auxerre joue Lille à la dernière journée. Qui est troisième, qui joue avec des champions, alors que Nice joue Metz qui est dernier et qui n'a plus rien à perdre. Donc je pense à tout moment, on va voir, mais les positions vont s'inverser, on verra bien. Victoire de Lille, donc là très important face à Monaco. Donc Lille, ça permet de passer troisième devant Lyon, puisque Lyon a perdu contre Toulouse 2-1. Donc très mauvaise opération des Lyonnais qui sont quatrième, du coup qui sont plus qualifiés directement avec des champions, parce que quatrième, il faut passer par des barrages, c'est compliqué. Donc vraiment Lyon qui fait la mauvaise opération. On a une victoire 4-0 de Lorient contre Metz. Vraiment Metz, rien ne va plus. Victoire de PSG 1-0, sans trop forcer. Enfin si quand même, parce que Doué a marqué à toute fin, mais sinon c'était très serré. Paris n'était pas trop dans son match. Bon, après ils avaient fait beaucoup tourner aussi, et beaucoup de jeunes, etc. Marseille qui a gagné là aussi à l'arrache 1-0 contre Le Havre. Ça fait du bien à Marseille quand même qu'on gagne, parce que ça faisait longtemps. C'est but de Greenwood sur pénalty. Franchement le pénalty, bon, on va pas trop discuter, mais après c'est une main, tu sais, il y a le mur, coup franc, un mur, et il est tiré dans le mur, et le mur en voulant se protéger, il touche son coude, enfin bref, pénalty.
C'est limite, c'est quand même, hein.
C'est limite, on s'en fout, Marseille, ça y est, on s'est tellement fait tu conviennes sur toutes les erreurs d'arbitrage de Marseille toute la saison, pour une fois que l'arbitre est avec nous, voilà. Encore pour moi, en plus le pénalty peut être validé. Et Angers-Strasbourg, un but partout, Strasbourg qui a fait match nul, alors qu'on verra du coup la semaine prochaine, mais il fait une mauvaise opération en Conference League. La Ligue 1, il ne reste plus qu'une journée, donc ce sera ce week-end. Il y aura notamment un super Marseille-Rennes, puisque regardez le classement, donc premier, le PSG avec 73 points, normalement ils sont sûrs d'être champions, enfin à moins qu'ils perdent sur les deux derniers matchs, et puis que Lens gagne les deux derniers avec au plus une une grosse différence de but. Bon, c'est vraiment très compliqué. Donc deuxième Lens avec 67 points, troisième Lille 61, quatrième Lyon 60 points. Donc comme j'ai dit, Lille est passé devant Lyon. Cinquième Rennes. Donc là pour l'instant, Rennes qui est qualifié en Ligue Europa. Donc c'est la compétition qui est en dessous de la Ligue des Champions. Je sais pas si vous arrivez à suivre, hein, Sacha, tu me dis s'il arrive pas à suivre et tout. Donc Rennes pour l'instant qui est 5ème, qui est qualifié en Ligue Europa. 3 points d'avance sur Marseille 6ème, qui pour l'instant Marseille est qualifié en Ligue Europa Conférence. Donc c'est la dernière compétition, donc c'est la compétition encore en dessous. Et sauf qu'il y a 3 points d'écart, sauf que ce week-end, comme j'ai dit, il y a Marseille-Rennes. Donc en cas de victoire, Marseille pourrait repasser devant Rennes. Et du coup, Marseille, au lieu de jouer la Conférence League, il pourrait jouer l'Europa League. C'est bon, vous me suivez?
Ouais, c'est bon.
On se suit parfait. Ensuite, derrière Monaco, 7ème avec 54 points, pour l'instant, qui est qualifié pour aucune Coupe d'Europe. Sauf qu'à tout moment, en cas de victoire, Monaco, et si Marseille perd du coup contre Rennes, il pourrait passer devant Marseille.
Ah ouais.
C'est-à-dire que Marseille pourrait jouer aucune Coupe d'Europe. Enfin voilà.
Et pour être qualifié en LDC, il faut gagner.
Non, c'est fini Marseille. Marseille, c'est fini la LDC, c'est complètement fini, c'est sûr et certain. C'est obligé.
Vraiment, et non, mais faut être classé combien pour passer
pour aller
en LDC?
Pour aller en LDC, c'est en Ligue des Champions, du coup, c'est les trois premiers.
C'est les trois premiers.
C'est les trois premiers, donc pour l'instant, c'est Paris, Lens et Lille. Et sauf que le quatrième peut, en fait, le quatrième passe des barrages pour aller en Ligue des Champions. Mmh. Et s'il réussit, il perd durant ces barrages, bah, l'équipe qui, bah, du coup, pour l'instant, c'est Lyon, imagine, ils vont en barrage. Et s'ils vont en barrage pour aller en Ligue des Champions, s'ils perdent les barrages, et bah, ils sont renversés en Ligue Europa. Okay. Donc, ils sont quand même en Ligue Europa, tu vois, mais c'est bon, et du coup, ils vont pas en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est compliqué, mais voilà. Donc pour l'instant, si on devait rester là, du coup, il y a Paris, Lens et Lille qui iraient en Ligue des Champions, Lyon qui passerait des barrages pour y aller, Rennes qui serait en Ligue Europa et Marseille qui serait en Conférence League. Donc voilà. Et pour finir, du coup, le bas de tableau. Donc là, Metz, c'est fini, son dernier. 16 points, malheureusement, c'est une saison très compliquée. 16 points, je vais vous dire les stats, ils ont gagné que 3 matchs. Que 3 matchs, ils ont gagné. Et ils ont fait 7 matchs nuls et 23 défaites. Sur 33 matchs, c'est quand même beaucoup. Ensuite, 17ème Nantes, malgré leur victoire contre Marseille, enfin vraiment, il n'y a aucun débat. Ils sont là aussi en Ligue 2. Et c'est là où on voit la différence quand même. Hein. 16ème Nice, qui est, comme j'ai dit, barragiste, ils ont 31 points. Et Metz à 16 et Nantes 23. Donc il y a quand même une grosse différence. Et donc, comme j'ai dit, pour l'instant, c'est 16ème, c'est Nice. Ils joueront contre le 3ème de Ligue 2. Justement, j'en viens à la Ligue 2, puisqu'on connaît déjà les deux clubs qui vont monter en Ligue 1 l'année prochaine. Puisque, comme j'ai du coup vu que Nantes et Metz, les deux derniers de Ligue 1, vont en Ligue 2. Il en faut bien deux autres de Ligue 2 qui montent en Ligue 1. Et donc, c'est 3 qui a fini premier de Ligue 2, qui va monter en Ligue 1. Le Mans, alors c'est compliqué là aussi, il va falloir suivre parce que durant leur dernier match contre Bastia, les supporters de Bastia ont jeté des fumigènes sur les terrains. Du coup, le match, c'est pas fini, mais il restait 2 minutes, ils gagnaient 2-0 Le Mans, donc normalement, ils vont dire match, c'est bon. Donc normalement, c'est même sûr, Le Mans est en Ligue 1, donc ça, grosse surprise. Alors que l'année dernière, Le Mans était en National. C'est la division en dessous. Donc là, ils viennent de monter en Ligue 2. Et là, ils remontent directement en Ligue 1.
Ça va être encore plus dur pour passer en Ligue 1 maintenant parce qu'ils veulent faire une Ligue 3, ça.
C'est ça. Alors, il faut que j'en vienne après.
Parfait.
Genre, du coup, Le Mans qui était en National, ils sont allés en Ligue 2 là. Ils étaient en Ligue 2 cette saison. C'était leur première saison. Hop, ils remontent en Ligue 1 après 16 ans, je crois. Donc, magnifique performance de Le Mans qui, en plus, avait le quatrième plus petit budget de Ligue 2. Hein. Et ils ont quand même réussi à monter en Ligue 1, donc c'est fou. Saint-Etienne, 3ème, donc pour l'instant, qui jouerait les barrages. Sauf qu'en Ligue 2, c'est plus compliqué. Là aussi, il va falloir suivre. Le 5ème, là, de Ligue 2, donc c'est fini la Ligue 2. Hein. Le 5ème, Rodez, va jouer contre le Red Star, qui a fini 4ème. Donc c'est 5ème contre 4ème. Le gagnant de ce match, il va jouer contre le 3ème, donc Saint-Etienne. Imaginons, là, du coup, c'est Red Star qui bat le Rodez. Donc le Red Star va jouer contre Saint-Etienne, qui a fini 3ème. Et le gagnant de ce match, donc imaginons, c'est Saint-Etienne qui a battu, du coup, le Red Star. Donc voilà. Et bien Saint-Etienne là ils joueront du coup contre le barragiste de la Ligue 1, donc le 16ème, donc là qui est pour l'instant Nice, mais comme je vous l'ai dit, normalement vu le calendrier de cette dernière journée, normalement ça risque peut-être d'être au cerf, enfin on verra, on sera au courant la semaine prochaine. Mais donc voilà, c'est sur un match aller-retour, il me semble, les barrages, c'est ça, c'est match aller et match retour.
Oui, normalement, oui.
Donc c'est ça. Donc voilà, et puis un petit mot aussi quand même pour ceux qui descendent en Ligue 3, parce que comme tu m'as dit, merci pour la passe des Sacha, c'est plus la nationale, parce qu'avant c'était Ligue 1, Ligue 2 nationale. Il n'y avait que la Ligue 1 et la Ligue 2 qui étaient professionnelles, considérées comme professionnelles. Maintenant, du coup, il va y avoir aussi la Ligue 3, parce que la Ligue 3, ça va repasser à la nationale. Du coup, ça va faire Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Et Ligue 3 va être aussi un championnat professionnel. Et on a eu l'info aussi, ça va être transmis sur Ligue 1 Plus, la Ligue 3.
Parfait. Ah, c'est cool.
Et la Ligue 3, petite nouvelle, il y aura peut-être Bordeaux l'année prochaine, puisqu'en National 2, donc c'était la poule justement de Poitiers en plus. Et ben Bordeaux est deuxième à un point du premier, et c'est que les premiers qui montent.
Et du
donc
coup, là, Poitiers, ils seront pas.
Alors, Poitiers, c'est fini en plus, ils sont relégués, ils vont en N3, donc eux, c'est encore en dessous. Mais donc là, on va dans la division inférieure. Mais Bordeaux, qui est un grand club, qui est maintenant deuxième de N2, s'ils passent premier, alors qu'il reste plus beaucoup de matchs, ils vont en Ligue 3. Donc on espère pour eux quand même, parce que c'est un gros club. Enfin voilà. Et du coup, les deux clubs qui descendent du coup en Ligue 3, c'est Bastia et Amiens. Laval, qui est sixième, là aussi, joueront un barrage contre le troisième de National.
l'année prochaine, Ligue 3. C'est fini pour du coup les championnats français. Enfin, on verra du coup la semaine prochaine pour savoir qui sont les barragistes en Ligue 1. Un petit mot quand même, classement buteur en Ligue 1, vous pensez c'est qui le petit classement des meilleurs
à
buteurs
à l'époque
en Ligue 1 ?
C'était souvent Greenwood.
Ouais, et ben là c'est Esteban Le Poll, l'attaquant de Rennes, avec 20 buts. Ensuite, on a deuxième égalité Panicelli et Greenwood avec 16 buts. Donc là, c'est fini pour le championnat de France. On passe en première ligue, donc en Angleterre. Et là, normalement, à part si il déroute, enfin vraiment ça se passe mal, mais Arsenal devrait remporter le titre de première ligue. Attention quand même, puisque ils ont 79 points et Manchester City deuxième en a 74. Il y a 5 points d'écart et en plus Manchester City a un match de retard. Du coup, c'est-à-dire qu'en cas de victoire sur leur match de retard, City il pourrait revenir à 2 points d'Arsenal et il reste 2 matchs. Donc à tout le monde, une défaite, Arsenal et hop, City passe devant.
C'est possible.
Donc voilà, va être très attentif en Angleterre sur ce qui se passe. On peut retrouver aussi 3ème Manchester United qui va retrouver la Ligue des Champions. Parce qu'en Angleterre, c'est les 5 premiers sont en Ligue des Champions. Donc voilà, donc les 3ème United qui vont directement en Ligue des Champions. Ça fait longtemps quand même qu'United n'a pas été aussi haut. On peut retrouver aussi Bournemouth quand même qui vont aller en Ligue Europa. Voilà. Et en bas classement, ceux qui vont redescendre, du coup, vous savez comment là-bas ? C'est la Championship.
Championship, ouais.
C'est ça, donc c'est la Ligue 2 d'Angleterre. C'est Wolverhampton, Burnley et on a West Ham. West Ham, ça va être très compliqué. Ils sont barragistes là aussi, comme en France. Ils ont avec 36 points. Et Tottenham juste au-dessus, c'est quand même fou de les voir là. Juste au-dessus avec 38 points, 2 points d'avance. C'est très dur. Tottenham entraîné par De Zerbi, l'ancien entraîneur de l'OM cette saison. Donc voilà, bizarre. Ensuite, on va en Italie. Italie, c'est l'Inter qui est sacré champion. Et puis, de loin, c'est l'Inter qui ont fini premier, 85 points. 15 points d'avance sur Naples, deuxième. Donc là, vraiment, Inter qui gagne haut la main. Et ceux qui vont aller en Ligue des Champions l'année prochaine en Italie, c'est l'Inter, Naples. Et là, ça va être serré puisque la Juventus, troisième à 68 points. L'AC Milan, quatrième, 67 points. L'AS Roma, cinquième, 67 points. Et on a qui est 6ème avec 65 points, donc c'est très serré, il reste 2 matchs. Et comme quand même c'est une arrêt de les voir là, ils sont 6ème, donc pour l'instant qualifiés en Europa Conference League.
Ça.
C'est assez fou quand même. Et pour dire les clubs qui descendent, un petit mot, c'est Pise, Hellas Vérone et Cremonense. Pour finir, on part en Allemagne. En Allemagne, à votre avis, qui a gagné la Bundesliga? Bon, normal. Le Bayern Munich est de très loin là aussi. 16 points d'avance sur Dortmund. 86 points et 70 points. On retrouve là aussi Leipzig qui vont à la Ligue des Champions. Stuttgart qui va pourquoi pas se battre pour aller à la Ligue des Champions aussi contre Hoffenheim, attention. Et après, pour ceux qui descendent, ça va être Heidenheim et Sankt Pauli. Je ne sais pas si je prononce bien les deux clubs allemands. Mais voilà. Un petit mot, je voulais dire, pour les trophées UNFP, donc c'est des trophées qui sont personnels. Enfin, ça, c'est des trophées personnels.
Individuels, ouais.
Individuels, exactement, chercher le mot. C'était en Ligue 1, donc il y a plusieurs récompenses. Donc, par exemple, la plus grosse récompense, c'est quel est le meilleur joueur de Ligue 1 ? Et ben le meilleur joueur de Ligue 1, c'est Ousmane Dembélé qui a été élu. Alors, je suis supporter marseillais, oui, mais je vais être très objectif. Je suis promis d'être objectif. Il ne le mérite pas du tout, voilà, simplement, parce qu'il a gagné. Non, mais je tiens à dire, parce qu'il a joué que 9 matchs cette saison en Ligue 1. Que 9, vous vous rendez compte ? Et en ne jouant que 9 matchs, il a le trophée de meilleur joueur de Ligue 1.
Il a mis combien de buts et de passes décisives ?
Alors, meilleur but, j'ai dit. Alors, ça, j'ai pas les stats, mais regarde, il est même pas dans le classement des meilleurs buteurs. Enfin, voilà. Pour moi, personnellement, j'aurais mis Vitinha. J'aurais mis quand même un joueur du PSG. Vitinha, milieu de terrain du PSG, qui est vraiment super fort. Ou sinon, j'aurais mis Thauvin. Thauvin, le joueur lensois, qui était un ancien Marseillais, qui était parti au Mexique, qui était en Italie. Il est revenu en France cette saison. On pensait qu'il était un peu cramé. Il a fait une super saison. Donc voilà. Après, c'est déjà Greenwood qui a fini juste derrière aussi. Mais voilà. Pour moi, Dembélé est derrière Greenwood. Enfin, vraiment, c'est pour moi. Pour vous dire que Dembélé, pour moi, il ne le mérite pas. Mais bon, c'est pas moi qui vais refaire les trophées. Ensuite, on a aussi le 11 type de la saison. Donc, le 11 type, on peut retrouver Greenwood devant, qui est en attaque. Donc, la composition de des meilleurs joueurs par leur poste.
Et les 11
donc,
meilleurs.
On peut retrouver par exemple le gardien de Lens, Risser. Il y a quand même beaucoup de Parisiens, il y en a 5. Il y a Nuno Mendes, Sarr, c'est un joueur lensois, Pacho et Hakimi, Vitinha, Sangaré, c'est un joueur lensois, et Tolisso, le joueur lyonnais. Et en attaque, Dembélé, Thauvin, comme j'ai dit, et Greenwood. Donc voilà, et puis après, on a aussi le meilleur espoir, Désiré Doué, le meilleur gardien, qui est le gardien lensois, Risser.
Ouais, Risser, ouais.
Donc voilà. Donc c'était pour les trophées UNSA, pour les trophées UNFP. J'avais aussi mon petit coup de.
Et le meilleur coach ?
Meilleur coach, j'avoue, j'ai
t'as
pas dit.
T'en parles pas, ça c'est bizarre.
Non, bah, je peux dire, c'est évidemment, c'est Pierre Sage.
Et t'es pas étonné ?
Pour moi, Pierre Sage, pour moi, il le mérite complètement. Pierre Sage, c'est l'entraîneur de
Lens. Il n'y a pas un coach parisien espagnol.
Non, mais alors je te mens pas.
Qui s'appelle Luis Enrique.
Mais d'accord, en Ligue 1, on parle de la Ligue 1. Pour moi, Pierre Sage mérite plus le trophée de meilleur entraîneur que Luis Enrique. C'est lui, il a fait monter Lens. Lens, jamais on les aurait pensé qu'ils allaient se battre pour le titre avec le PSG.
Jamais.
C'est vrai.
C'est vrai, voilà. C'est vrai qu'ils ont fait.
T'as encore un argument là ? C'est bon, Mamadou ?
Voilà,
c'est
non, bon. Je suis le contre-pouvoir.
J'ai gagné le débat. Enfin, j'ai gagné le débat. Donc, c'est mérité que Persage ait son titre de meilleur.
C'est pour Yanis, ça.
C'est ça. Donc, voilà. Donc, il reste, comme j'ai dit, une journée de Ligue 1. On verra ça la semaine prochaine. Mais du coup, sinon, ça va être, c'est fini pour la Ligue 1. Et évidemment, on passe encore avec du foot, mais à la Liga. Te laisser la parole un peu parce que j'ai beaucoup parlé.
T'as enchaîné là.
Là j'ai enchaîné.
C'est parti, retour de la Liga après presque deux mois sans chronique Liga. Donc on va revenir sur les derniers matchs, puis on va parler brièvement du Real Madrid parce qu'en ce moment c'est un peu comme Marseille.
C'est très compliqué.
Même si je vous prépare la semaine prochaine une petite émission spéciale Real Madrid, chronique spéciale Real Madrid, on va revenir sur ce qui s'est passé là ces dernières semaines, ces derniers mois. Et parce que vraiment le club est en train d'imploser, d'exploser.
Ah, ça y est, le Real, ils font une saison blanche, il y a une crise, alors que Marseille, ça fait je sais pas combien d'années, il y a une saison blanche. Pas...
Attends, avant de commencer, petite statistique, le Real Madrid, 126 ans d'histoire, à ton avis, combien de saisons blanches ils ont ?
Ouais, j'ai vu, ils en ont
6. Ils en ont que 5.
5, voilà.
C'est,
oui, voilà.
Et là, c'est une dinguerie. Hein. Non, c'est la cinquième, là, je crois. Ou non. La sixième, je sais pas.
Non, si, ouais, s'ils remportent aucun trophée, c'est la sixième.
Oh, en fait, oui, c'est la sixième. Ah ouais. Et c'est ridicule. C'est
folie, ça veut dire que.
En 120 ans, ils ont 6.
C'est que des joueurs de fou. Hein.
Ça montre que le club est. Wow. Ouais,
allez, donc club. On va parler des derniers gros matchs qui ont eu lieu en Liga. Donc, bon, franchement, je vais parler de vraiment quelques-uns parce que la Liga est pliée déjà. On a eu en début du mois d'avril, on a eu le Barça qui mettait des 4-1 à l'Espagnol. Ouais. Le Barça qui bat la tête que 2-1. Le Barça qui met 2-0 à Getafe. Le Barça qui gagne 1-0 à Celta Vigo. Et pendant ce temps, le Real, on fait des matchs nuls. Ils ont perdu. Ils ont encore fait un match nul, donc forcément ça crée un gros écart. Et puis ce week-end, on a eu le Classico, ouais, le fameux Classico qui opposait le Real au Barça. Et donc si le Barça gagnait, ils étaient champions d'Espagne. Si le Barça faisait match nul, ils étaient champions d'Espagne.
Donc le
Real devait absolument gagner. Et le Real a perdu 2-0 misérablement. Et donc le Barça qui gagne la Liga.
Après on va pas se mentir, même si le Real aurait gagné, il restait 3 matchs derrière.
Il y a encore un espoir. Il aurait fallu que le Barça perde tous ses matchs.
Bon, voilà, et que le Real
gagne, tout.
Ouais. Bon, mais c'est pas méchant, mais le Barça, est-ce qu'il aurait perdu ses 3 derniers matchs, le Barça ?
Après, je t'avoue, j'aurais préféré qu'il perde la Liga, mais sur un match après, genre pas pendant le Classico au Camp Nou, tu vois.
Oui, je vois.
Donc voilà, le Real qui perd. Puis il y a plein de joueurs qui sont blessés. Mbappé était blessé. Puis ce qui se passe là, on en parlera la semaine prochaine.
Voilà, c'est un petit teaser, la semaine prochaine, soyez là. Voilà.
Vous verrez. Donc dans le bas du tableau, le Real Oviedo qui est déjà... c'est déjà fini pour eux. Hein. Donc,
ils étaient promus aussi, hein, ils viennent d'arriver en Liga.
Je crois, ouais. Levante, 36 points. D'ailleurs en Liga, ce qui est étonnant, c'est que entre la place du 17e et la place du 8e, il n'y a que 10 points d'écart.
Ouais, c'est fou quand même.
Ah, c'est pas beau.
Non, entre le 6e et le 16e, il n'y a que 10 points d'écart.
Entre le 6e et le 16e ?
Ouais. Alors donc que, chaque victoire, ça peut tout chambouler.
Alors que moi, bon, je vais dire un petit comparatif. En Ligue 1, 6e, Marseille, 56 points. 16e, Nice, 31 points. Donc il y a 26 points d'écart. Donc c'est vrai que.
Donc là, en Ligue 1, c'est vraiment hyper serré. En plus, on a eu certains matchs ce week-end et ce week-end d'avant. Il y avait des buts vraiment suspects. Donc il y en a qui se demandent s'il n'y a pas un peu de. Peut-être un peu d'accord, de corruption, j'en sais pas. Parce que, franchement, c'est vraiment très serré. Et le moindre point peut vraiment faire changer les choses. Parce que tu peux passer de Séville...
Chaque match est stressant. Quoi.
Ouais, chaque match, hyper important. Séville, ils étaient relégalables. Donc, ils étaient en Ligue 2. Ils ont fait une victoire et maintenant, ils sont 13e. Ils en font une autre. Ils peuvent peut-être jouer l'Europa League ou la Conférence League.
Ouais, ça, donc, c'est très serré.
C'est hyper méga serré. Voilà, donc pour la Liga, c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine pour la chronique spéciale Real Madrid.
Real Madrid.
Et donc on va passer à la Ligue des Champions.
Rien de Sacha comme il est content, rien de vas-y, il est content.
Le Parisien.
Voilà, le Parisien.
Le faux Parisien. Est-ce que t'as un vrai supporter du Paris Saint-Germain ?
Mais bien sûr.
Depuis quand ?
Depuis que je suis née, parce que mon tonton est supporter du Parisien. Et depuis, je supporte Paris.
Tu vois, Saint-Jacques, c'est un vrai argument de supporter parisien. C'est pas les faux parisiens qui disent ouais, Paris, c'est les meilleurs, c'est les premiers, donc c'est
moi.
Tu vois, voilà. Si c'est moi, 3 joueurs du PSG, Mbappé, c'est pareil.
Neymar-Messi.
Ouais, Neymar-Messi, voilà.
Allez, donc on va revenir sur les quarts de finale. Voilà, je remonte très loin. Puis après, on va se rapprocher des demi de la finale. Donc en quart de finale, on a eu le Barça qui a affronté l'Atlético. Donc match aller, l'Atlético qui fait la surprise, hein, qui s'impose 2-0. Au retour, le Barça doit absolument gagner. Et bah, ils ont gagné, mais ils ne sont pas qualifiés. Ils ont gagné 2-1.
Non.
Voilà, donc ils se sont fait éliminer. Pareil pour le Real, ils ont perdu.
C'était pas loin. Après, ils avaient... Barça n'avait pas un rouge. Non,
le Barça, je crois qu'ils ont pris un rouge au match aller.
Ah, au match aller, ok.
Au match aller, ils ont pris un rouge. Au match retour, peut-être aussi. Mais match aller, je me rappelle très bien du rouge qu'ils ont pris. Le Real, pareil, match aller, ils ont perdu 2-1 au Bernabeu, donc face au Bayern. Au match retour, le Real a absolument gagné. Et pour le coup, le Real a fait son meilleur match de la saison. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Parce que si vous vous rappelez bien, en fin de match, le Bayern reculait. Mmh. Donc le Real était plutôt dans un temps plutôt fort, on va dire. Et puis on a Camavinga. Donc il y avait une faute de Camavinga, je crois. Il fait tomber je sais plus qui. Et il prend le ballon et il court avec. Il perd du temps. Et du coup, bah, l'arbitre, direct, il lui met un carton jaune. Sauf que l'arbitre, et bah, il se dit « Ah, mais en fait, il a déjà un carton jaune avant. Ouais. » Et du coup, bah, il prend un carton rouge et il se fait exclure.
Oui, c'est vrai qu'en plus, je crois que c'est les joueurs qui l'ont rappelé. Les joueurs, ouais.
Donc on a Kimmich, Musiala qui dit « Eh, mais il a un carton, lui. » Et du coup, l'arbitre disait « Ah, merde, mais il a un carton. » Du coup,
après,
il
prend rouge. Pas le seum non plus quand même, Mamadou.
Non, mais là, non, j'ai pas le seum. Non, là, j'explique l'interprétation.
Oui,
parce que vraiment, quand on voit la réaction de l'arbitre, vraiment, il voit qu'il perd du temps. Il dit « Bon, tiens, jaune. » Il se retourne, il repart à son truc. Et puis, t'as Michel qui dit « Eh, mais il avait déjà un jaune. »
Oui, c'est ça, oui.
Du coup, il dit « Ah, bah, c'est vrai. »
Parce qu'il avait oublié qu'il avait un jaune, oui.
Donc je pense que si ça, peut-être qu'il l'aurait pas mis. En tout cas, ça reste mérité dans le sens où il a pas à faire ça, mais bon, ça. Du coup, après, ça pourrit le match. C'est parce que Jack le Real défendait pas beaucoup avec Mbappé et Vinicius qui sont devant, qui marchent beaucoup.
Ouais.
Donc match donc là Camavinga sort et on prend un but et un deuxième je crois.
Mais bon, qui met après pour moi le Bayern était quand même au-dessus. Après c'était un bon match.
Sur les deux matchs,
Match retour c'était quand même un bon match. Il y avait 2-2, 3-2 à la mi-temps.
Ouais, 3-2 à la mi-temps. C'était un très gros match, ouais.
Quand même le Bayern a été quand même a fait quand même partie des gros matchs. Hein. On en reverra. Tu verras après.
D'ailleurs le Bayern cette année, ouais, cette saison ils ont
très très fort le Bayern.
Oui. Très fort, ouais. Mais ils ont vu plus fort qu'eux.
Ouais,
Arsenal Sporting, franchement, match aller 1-0, un match vraiment ennuyant. Ouais. Et au match retour 0-0.
Ouais, c'est pas la meilleure des.
Vraiment, le match.
Pourtant,
tu
Sporting,
regrettes,
hein. Ça n'a pas l'air un club si fort.
C'est qu'en plus, le Sporting, c'est pour ça que j'ai encore la haine. Hein. Le Sporting, Marseille les avait joués. Et on a perdu contre eux, mais on gagnait 1-0. Et on a pris un carton rouge, du coup, ça a changé le match. On a perdu 2-1. Mais sinon, on était largement meilleur qu'eux.
T'as le seum là, non?
Et tu vois, je sors mon seum un peu. Mais tu vois, pour dire Marseille qui était meilleur qu'eux, normalement. Et Sporting se retrouve en quart de finale. Et nous, on n'est même pas passé les barrages.
Oui, à cause d'une tête d'un gardien, je crois, de Benfica contre le Real aussi.
Ah, bah c'était contre le Real. Remue le couteau dans la plaie. Ah, continue, vas-y, essaie de me blesser encore.
Voilà. Ah, mais c'est horrible. Il y en a tous perdu, hein, donc.
Ouais, voilà, tous perdu. Donc, c'est ça. Sauf lui, rien, il est content. Rien.
Sauf le PSG.
Voilà, j'espère Arsenal.
Le PSG qui est vraiment très bien, qui a gagné au match aller contre Liverpool 2-0 et qui regagne au match retour 2-0. Dembélé, je trouve ce qu'il a de vraiment fort depuis la saison dernière, c'est que vraiment, il marque dans les matchs importants, genre. Ça me rappelait vraiment Benzema en Ligue des Champions, ouais. En 2022. Vraiment, quand il faut marquer, il est là, il marque.
Ouais. Après, et Benzema, il te mettait des triplés et tout, Benzema, mais oui. Mais après, ouais. C'est pour ça que, genre, tu vois, je reviens juste sur les trophées du NFP, il a été élu meilleur joueur de Ligue 1. Mais pour moi, pas de la Ligue 1, tu vois. Ok, il est bon en Ligue des Champions, mais pas en Ligue 1.
Je pense que ça les a influencés, forcément.
Oui, mais c'est sûr, mais
c'est sûr que ça les a influencés.
C'est sûr, mais enfin, voilà.
Donc, demi-finale. Demi-finale, donc match aller, PSG-Bayern, on est sur. Peut-être le meilleur match de la saison en club. Donc 5-4, très très gros match.
Ouais, et puis moi, quand même l'un des meilleurs matchs de Ligue des Champions, on peut le dire aussi quand même. Oui. Hein. Un des plus gros matchs de l'histoire de Ligue des Champions.
Bah, 9 buts,
de l'histoire, non.
Mais l'un des meilleurs, des plus gros matchs de l'histoire de Ligue des Champions.
Oui, l'un des plus gros matchs, mais pas le meilleur match.
Ah, bah, non. Mais quand même, c'est à 5-4, demi-finale PSG-Bayern, 5-4 quand même. C'est un match, mais ouais.
Je suis d'accord pour dire que quand même, il y a eu beaucoup de matchs en Ligue des Champions.
Ah oui, d'accord, mais 5-4 quand même là, il est monumental.
Il est marquant, oui. On s'en rappellera dans longtemps.
Franchement, ceux qui ont payé leur billet pour aller voir le match, je pense qu'ils doivent être contents. Ouais. Des fois, tu te plains parce que t'as pas mis. Tu imagines, t'allais voir Arsenal Sporting, t'as eu 0-0. Et là, tu vas voir PSG Bayern, t'as 9 buts.
Eh oui. Et donc, au match retour, un partout, mais ça suffit pour gagner et pour passer en finale.
Ouais.
Et puis, l'autre demi-finale aller, c'était le match vraiment terrifiant. Arsenal, Atlético de Madrid. Deux équipes qui sont, on va dire, connues pour leur. Leur jeu assez défensif.
Hein.
Donc, deux équipes qui défendent beaucoup, ça fait pas beaucoup de buts. Un partout au match aller et 1-0 au match retour. Donc, Arsenal qui s'impose. Et donc, la finale, ça sera Arsenal-Paris Saint-Germain. Pronostic ?
Alors, déjà, faut préciser un truc, c'est que la finale de Ligue des Champions, maintenant, elle est à 18h.
Elle sera à 18h.
Oui. Ouais. C'est vrai,
parce qu'ils ont pris après moi je trouve ça bien parce que genre les finales tu sais normalement c'est des gros trucs, des gros événements, tout le monde doit regarder, c'est comme la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde c'est vers 17h que je
pense. La finale ça dépend du pays,
ouais mais même tu vois c'était au Qatar, c'était vers 17h que je comme ça,
ouais Qatar
c'était exprès justement comme ça après on nous laisse profiter enfin les rues dans les rues et tout enfin tu vois, et du coup là ils ont pris exemple c'est pareil c'est à 18h mais moi vas-y pronostic, enfin tu veux commencer Sacha.
Moi j'aurais dit 2-1 honnêtement
pour Arsenal, ouais
pour le PSG.
Ok.
Ok, pour toi, Mamadou
Moi, c'est difficile parce que l'an dernier, PSG Inter, tout le monde pensait que ça allait être un peu serré quand même. Ils se sont pris 5-0.
Ouais.
Je pense qu'il y aura pareil un gros score du PSG.
Ok. Moi, alors je vais dire un coup sur une cote pour le cœur, sur le cœur, un coup sur l'objectivité. Déjà, Marseille, on a vécu une saison horrible. Vraiment, je rattache à Marseille. Hein.
Du coup, si, Marseille,
si le PSG gagne une deuxième fois d'affilée à la Ligue des Champions, alors que Marseille, déjà, on a fait une saison horrible, tu vois, c'est vraiment l'inverse. Sur Marseille, ils coulent. Ouais. Et Paris, c'est-à-dire, ce moment, ils vont peut-être gagner une deuxième fois la Ligue des Champions. C'est horrible. Vraiment, c'est un supporter marseillais. C'est horrible. On est maudit. Donc, moi, je vais parler sur le cœur. J'espère que Arsenal va gagner. Je l'espère, mais tellement. Mais au fond de moi, j'ai bien peur que le PSG la regagne. Je sais pas le score, mais j'ai bien peur qu'il la regagne.
Et oui. Donc, Arsenal, ils sont très durs à pronostiquer parce qu'en première ligue, des fois, ils mettent des gros scores, ils gagnent des gros matchs et parfois, ils perdent. Donc, c'est difficile.
Bah, de revoir.
Après, les deux équipes sont, je me dis, c'est sont un pas match. Trop régulières non plus. Hein, des fois.
Oui, en fait, ça, c'est sur un match. Du coup, à tout
c'est
moment,
dangereux,
Arsenal... voilà, mais, mais en vrai, enfin, vraiment, le PSG est tellement fort, ils écrasent tout le monde. Pour moi, ils ont battu la meilleure équipe actuellement qui était le Bayern.
Ouais. Ouais, et pourtant, franchement, le match de demi-finale était chaud parce que il y a eu beaucoup de débats avec la main
De Neves.
Franchement, il y a main, mais il y a pas faute, il y a pas pénalty.
Ouais, pour moi, même en tant qu'objectif, objectif, il y a pas pénalty, mais après il y a carton rouge de Nuno Mendes sur la main.
J'ai pas vu cette action.
Parce qu'il y a une main où, en fait, quand tu regardes le match, t'as l'impression qu'il y a main et qu'il y a pénalty normalement, et après. En fait,
c'est qu'il se protège, donc oui, non. Ouais. Mais après, par contre, il y a
le ballon parti.
Il y a main de Nuno Mendes. Après, il y a carton rouge pour moi pour le PSG, mais bon.
La main, elle est dans la surface.
Non, c'est dans le milieu de terrain, mais enfin, il fait exprès mettre la main comme
exprès,
ça.
Ouais.
Enfin, c'est pas fait exprès, mais genre dans l'action, tu sais, il fait la main et tout. Et donc pour moi, c'était deuxième jaune, carton rouge. Enfin, il y avait déjà un jaune, c'est pour ça. Du coup, c'est deuxième jaune et carton rouge.
Aussi, le problème qui a été, c'est que le Bayern, ils sont peut-être un peu énervés parce qu'il y a eu pas mal de mains qui ont été volontaires. Mmh. Du Bayern où il y en a un qui s'est roulé par terre, qui a fait bouger la balle. Je sais pas si
ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, après le match du Real face au Bayern, là, j'avais vu une émission dans la soirée, dans le week-end, sur Canal+. Donc on a Tony Chaperon, je crois, un ancien arbitre de Ligue 1. Il fait des analyses d'arbitres sur les fautes. Ouais. Et c'est là qu'on se rend compte que déjà de 1, c'est hyper dur d'être arbitre en Ligue des Champions. Et de 2, le nombre d'erreurs qu'il y a, c'est une dinguerie. Hein.
Ouais. Après, c'est qu'il y a tellement en fait, d'interprétations.
Ouais, il y a la VAR et tout.
Non, là, il n'y a pas main. Là, il y a main parce que c'est son équipier. Là, il n'y a pas main parce qu'il essaie de se protéger. Là, il y a main parce que c'est collé. Il y a tellement de trucs.
C'est là qu'on dit la VAR. Il faudrait peut-être, je sais pas, avoir une meilleure VAR parce que des fois, l'arbitre ne dit plus rien.
Déjà, il faut l'utiliser, la VAR. Parce que la VAR, y a elle est jamais utilisée. Quand tu vois les fautes en Ligue 1, la VAR, je sais pas à quoi elle sert. Je sais pas à quoi elle sert vraiment.
Faudrait limite donner des trophées aux arbitres parce que franchement, un travail comme ça.
Oui, c'est dur. Bah,
après,
ils le font. Ouais. D'ailleurs, ils ont fait un classement. On a deux Français dans les meilleurs arbitres du monde, je crois.
Ouais.
Deux, trois Français.
Ouais. Après, c'est vrai, en Europe, les arbitres français ils sont bons, mais en Ligue 1, ils sont horribles. C'est horrible. C'est voilà. Mais bon.
Bon bah c'est tout pour
mais ça me fait mal de voir finale des champions et voir en dessous le PSG. Ça fait très très mal, j'espère qu'Arsenal va gagner mais bon.
Là, j'ai acheté le maillot de l'année dernière parce que je voulais l'acheter et j'attendais qu'il descende un peu, je l'ai acheté et en fait je vais pouvoir ajouter la deuxième étoile donc
il va dessiner une petite étoile, il va la coller.
Ouais.
Mais t'inquiète pas, ils vont gagner Arsenal. Tu sais, j'ai mon petit frère qui a le maillot d'Arsenal, je vais lui dire de le mettre pendant la finale comme ça,
c'est pour ça la poisse.
Voilà, exactement, pour qu'il gagne.
Non, mais on verra le 30 mai.
Ouais, on verra le 30 mai. Bah, j'espère que moi, je vais pas être triste. Mais voilà, mais en tout cas, merci de nous avoir écoutés. On a fait une très bonne émission, on vous l'avait dit dès le début. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Salut!
Salut!
C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM.
J'avoue des intentions, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme ça.
C'est bon, parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.